Stéphane retira le grand drap blanc, découvrant le lit double. Tomferson n'est pas venu ici depuis longtemps, commenta-t-il en agitant la main pour dissiper le nuage de poussière. Ce sera très bien, répondit Peter en décoinçant l'unique fenêtre d'un coup de rein. C'est finalement l'adresse la plus confortable que nous ayons eue depuis bien longtemps. L'air frais entra dans la pièce. La chambre, la plus grande des deux située à l'étage, donnait sur une belle étendue herbeuse parsemée de bouleaux. Au rez-de-chaussée, Valeria disposait les provisions sur les étagères de la cuisine pendant que Simon achevait d'ouvrir les volets. La maison était située assez loin du village, isolée de la route par un alignement de châtaigniers sous lesquels avait prospéré un inextricable taillis de ronces et de mûriers. Sur le côté, coincé entre la maison et un vieux garage de planches, on devinait les restes d'un potager. En s'étirant, Simon cala le dernier battant de bois des fenêtres de la cuisine. Il souffla et se retourna vers Valeria. Il s'immobilisa dans la contemplation de la jeune femme. « Eh bien quoi ? » demanda-t-elle amusée. « Vous n'avez jamais vu quelqu'un ranger des courses ? » ?»« Il y a des années que je n'ai pas vu quelqu'un faire quoi que ce soit de normal. » « Tenez, aidez-moi, mettez le liquide vaisselle et l'éponge sur l'évier derrière vous. » Valeria s'affairait, heureuse de se consacrer à une tâche ordinaire. En accomplissant ces gestes simples, elle retrouvait un peu sa vie d'avant. Simon la fixait toujours. Valeria surprit son regard et déclara : « Je vous trouve étonnant. Pourquoi ? Là-bas, au centre, vous aviez tout d'un patriarche. Vous aviez l'air si sage, si rassurant. Et là, vous ressemblez presque à un enfant. Les circonstances étaient particulières. Vous m'avez d'abord connu comme médium, et dans l'état de détresse où vous vous trouviez, même mes maigres capacités pouvaient vous aider. Mais je vous promets que je ne suis ni un patriarche, ni un monument de sérénité et de sagesse. Les autres me respectaient pour ce que je ressentais, mais lorsqu'il s'agissait de vie quotidienne, chacun se débrouillait très bien sans moi. C'est plutôt moi qui avais besoin d'assistance. Je suis resté enfermé trop longtemps. J'ai perdu toute autonomie. Je crois aussi que je m'étais résigné à ne plus jamais vivre normalement. Je m'étonne vraiment de ce qui m'arrive depuis hier soir. Et puis il y a autre chose. » L'homme réunit ses mains et croisa ses doigts. Valeria l'avait déjà vu faire ce geste au centre lorsqu'ils avaient parlé la première fois. « Vous savez, dit-il, lorsque vous m'avez proposé de fuir avec vous, j'ai d'abord eu peur. » « De quoi ? » s'étonna la jeune femme qui, du coup, interrompit son rangement. « Je sais que cela va vous surprendre, mais j'ai eu peur de vous trois. J'étais un captif à qui l'on offrait soudain la liberté, et c'était inespéré. Mais il y avait aussi ce que j'éprouve à votre contact. » Simon sembla chercher ses mots et reprit. « Voilà plus de 50 ans que je côtoie des gens, et je n'ai jamais perçu cela auparavant. » Il hésitait à en dire plus. « Que ressentez-vous ? » demanda Valeria intriguée. « Une puissance terrible, extraordinaire, qui n'a rien de commun avec ce qu'émettent les gens d'habitude. Je n'en ai pas conscience. Je sais. Mais croyez-moi, c'est impressionnant. Imaginez-vous soudain confronté à une force qui vous touche intimement et que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez même pas. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous percevez est remis en cause. Comme si vous étiez confronté à une clé des mystères de la vie, à ces choses que l'on sent mais sur lesquelles on n'ose même pas s'interroger. Elles sont à la limite de notre champ de compréhension. Et tout à coup, la réponse vous apparaît avant même que vous n'ayez atteint la maturité pour poser la question. C'est un choc. avec la fascination, surgit la peur. Simplement, par ce que vous êtes, vous avez balayé les maigres certitudes que je m'étais patiemment construites pendant des années. Je croyais comprendre l'esprit mieux que les autres, et vous m'avez brutalement ramené à ma minuscule dimension. Valéria n'aimait pas l'idée de pouvoir être autre chose que simple. « Vous discernez aussi cela avec Peter et Stéphane ?» demanda-t-elle. « Avec Peter, c'est pire. Il est le plus puissant de vous trois. Son esprit est, comment dire, en éruption constante. Il émet et reçoit en permanence. Vous pouvez sentir ce qu'il émet ? Non. Je peux juste dire si la radio est allumée et jusqu'où elle porte, mais je n'entends pas ces émissions. Je détecte une activité. Au mieux, je peux, si je suis physiquement proche de la personne et qu'elle est consentante, arriver à me brancher sur elle, mais même une perception aussi ponctuelle reste un exploit pour moi. Et Stéphane ? Il est comme vous. Vos flux sont irréguliers. On a parfois l'impression que vous envoyez des signaux au hasard, comme un message lancé dans la nuit des âmes. Votre émetteur appelle, et la réponse ne vient pas encore parce que la liaison est brouillée. Comme si la longueur d'onde n'était pas la bonne. Mais j'ignore comment cela se régule. Je sais reconnaître une radio, mais je ne sais même pas l'utiliser. Lorsque le professeur a tenté de forcer votre esprit, j'ai cru qu'il avait juste réussi à tout détruire, et vous avec. Apparemment, non. Vous aussi, vous avez subi leurs expériences ? Non. Ils savaient qu'il n'y avait rien de plus à tirer de moi que ce qu'ils utilisaient. J'ai eu peur pour vous, parce que moins d'un an auparavant, ils ont eu un autre prisonnier et ils lui ont fait subir quelque chose du même genre.
Jensen y a fait allusion juste avant de m'attacher dans cet horrible sarcophage.
Il vous a dit ce qui était arrivé après ?
L'homme est devenu fou et s'est tué, c'est ça ?
Malheureusement, la réalité est un peu plus effrayante que ça. Ce pauvre type, un Allemand, je crois, Julius, je ne me souviens plus de son nom. Je l'ai rencontré à son arrivée. Je devais évaluer son potentiel. Il avait l'air complètement terrifié. Il s'était accroché à moi. Il a été emmené quelque part dans les étages du centre pour y subir le même genre de traitement que vous. Lorsque le soir suivant, il a été remonté dans sa chambre, il délirait. Il marmonnait en boucle, répétant quelques mots à propos d'un pianiste, d'une chapelle. Il pleurait sans arrêt. On m'a appelé à son chevet pour évaluer à quel point sa puissance d'émission cérébrale avait augmenté. Au lieu de se renforcer, elle était nulle. Il était détruit. Son cerveau était, l'expression est horrible mais exacte, grillé. Ils l'ont laissé hurler toute la nuit. Même à l'extrémité des interminables couloirs, on l'entendait de nos chambres. Quelques heures plus tard, le silence était revenu. On a cru qu'il s'était endormi. Lorraine est allée le voir à son réveil le lendemain, et elle a trouvé les hommes de Jensen en train de laver sa chambre à grande eau. Il n'avait pas fini. Il restait des traces de sang partout sur les parois. Ils lui ont juste dit, à mots couverts, que le pauvre avait fracassé sa table de nuit et, avec l'un des pieds, s'était défoncé le crâne.
Valéria sentit son estomac se soulever.
Son nom, dit-elle, ce n'était pas Kirstein ?
Si,
c'est ça.
Maintenant que vous le dites, ça me revient. Comment le savez-vous ? C'était un universitaire à qui Stéphane était allé se confier. Ce Kirstein l'avait interrogé sous hypnose, puis avait disparu sans laisser de traces. Il aura peut-être parlé du cas de votre ami à quelqu'un de trop, et l'affaire sera remontée aux oreilles du centre. Possible en effet qu'il se soit jeté lui-même dans la gueule du loup, déclara Valéria pensive. J'ai vu passer toutes sortes de gens au centre, mais aucun n'a fini de manière si atroce. Je peux comprendre ce qu'il a ressenti. Je ne suis resté enfermé que quelques jours, et déjà les idées noires m'envahissaient. Je crois qu'au bout d'un certain temps, convaincu comme vous que je ne ressortirai pas, j'aurais songé au suicide, moi aussi.
Ça nous arrive à tous, confia Simon. Mais heureusement, en tout cas chez le plus grand nombre, la pulsion de vie est la plus forte, surtout quand on est habité.
Tous les prisonniers étaient médiums ?
Pas forcément, mais chacun avait sa spécialité. En 5 ans, j'ai fini par saisir un peu le fonctionnement du centre. Jensen supervisait tout. Il travaillait sur les possibilités méconnues du cerveau humain. Il faisait de la recherche pure, explorant des hypothèses. Mais le plus gros de son travail consistait à étudier les cas concrets et à essayer d'en déduire des lois ou des principes jusque-là inconnus. La mission qui m'était imposée était d'évaluer la puissance des missions psychiques des nouveaux arrivants. Cela me donnait l'occasion de les rencontrer. Parfois, même si les entretiens étaient étroitement surveillés, j'arrivais tout de même à nouer des liens. J'ai vu défiler des télépathes, des gens dotés d'un vrai don de voyance, d'autres capables de télékinésie. Je me souviens d'une femme qui m'avait particulièrement impressionné. Elle pouvait donner la composition chimique d'un objet rien qu'en le touchant. Elle rentrait littéralement en fusion avec la matière. Aucun alliage ne résistait à son analyse. Avec une précision infernale, elle vous débitait la liste des constituants. C'était vraiment spécial. Jensen avait ainsi tout un catalogue d'aptitudes à étudier, à décortiquer. Parfois, certaines lui servaient à en évaluer d'autres. C'était mon cas. J'ai assisté à des trucs incroyables que même là-bas, j'avais du mal à croire. J'ai vu des gens capables de se parler à travers des murs, des magnétiseurs, ceux qui soulèvent des poids de plusieurs tonnes avec 2 doigts, ceux qui peuvent se glisser dans vos souvenirs juste en vous regardant dans les yeux. Je vivais dans un autre univers où plus rien n'était normal. Tous ces dons n'étaient plus disséminés sur la planète, mais concentrés dans ce laboratoire. Du coup, nous étions nombreux à perdre la notion du monde tel qu'on le conçoit en général. Je crois que Jensen avait lui aussi perdu le sens commun. Il était déconnecté de la réalité. Je ne sais même pas s'il lui arrivait de sortir du centre. Pour vous dire à quel point la pression psychologique était forte. Pendant une période, je suis allé jusqu'à me demander si Jensen ne mettait pas tout cela en scène pour m'utiliser encore plus. Mais non. Il aurait pu truquer les effets, mais pas ce que je ressentais. Peu à peu, j'ai fini par établir une relation directe entre ce que je percevais des gens et l'étendue de leur pouvoir. J'avais défini ma propre échelle de mesure, et en quelque temps, rien qu'en rencontrant les sujets, j'étais capable de dire s'ils allaient nous époustoufler ou se cantonner au banal.
Seulement en percevant leur flux psychique.
Oui, et je ne me suis jamais trompé. Peu à peu, je me suis même pris au jeu. J'étais à chaque fois curieux de savoir ce qu'ils pouvaient accomplir. C'est un peu comme quand vous voyez un athlète débarquer dans un stade. Vous le jaugez, vous évaluez sa constitution, ses bras, ses jambes, sa puissance. Dès que vous le voyez, vous savez s'il sera plus fort. Vous sentez si c'est de la gonflette ou si c'est un titan. Tout l'enjeu, ensuite, est de savoir à quoi il utilise son potentiel. Est-il coureur, sauteur en hauteur, lanceur de poids, lutteur? Au centre, j'étais un peu à l'entrée du stade.
Que sont devenus tous les gens que vous avez rencontrés?
Certains sont restés au centre, retenus comme moi, mais pour la plupart, après quelque temps, on ne les revoyait jamais.
Remis en liberté?
Je ne sais pas. Jensen emmagasinait des milliers de données, organisait des centaines d'expériences, mais pour le reste, tout était top secret. On s'est souvent posé la question. Le doute planait sur l'issue des séjours. Beaucoup, parmi les médiums, étaient convaincus que les sujets devenus inutiles étaient purement et simplement supprimés. Cela contribuait à entretenir le climat de terreur que vous avez connu. Pour survivre, il fallait être utile à Jensen.
Vous avez dû vivre un enfer.
Oui et non. Même dans l'horreur de ce lieu maudit, j'ai été le témoin de choses extraordinaires. C'est étrange. Vous avez été ma dernière rencontre et vous avez aussi été la plus exceptionnelle. J'ai tout de suite senti que vous étiez un sommet dans mes évaluations. Mais il m'a fallu plusieurs jours pour mesurer à quel point.
Vous n'étiez ni télépathe, ni capable d'aucun prodige paranormal, et pourtant, votre flux est avec celui de vos amis le plus puissant que j'ai jamais perçu, et de loin.
Alors, je vous ai observé, espionné même. Je savais que Jensen vous portait un intérêt particulier, et je dois avouer que, d'une certaine façon, moi aussi. En tant qu'homme, votre fragilité me touchait. Mais en tant que médium, j'étais vraiment curieux de découvrir qui vous étiez. Et en vous surveillant, j'ai appris une chose essentielle. Votre puissance vient de votre connexion directe aux esprits. À l'un d'entre eux en particulier. Vous tirez votre puissance de cette association. Le flux est si pur qu'il en devient palpable. Je crois qu'un jour, vous parviendrez à le maîtriser, comme moi, j'ai appris à mon humble niveau. Et ce jour-là sera un grand jour pour l'humanité.
Peter entra dans la cuisine, les interrompant. « Ça y est, dit-il, la maison est en ordre. Vous avez chacun une chambre en haut. Stéphane et moi partagerons le salon avec le lit de camp et le canapé. » Au regard absorbé de ses interlocuteurs, le jeune homme comprit qu'il débarquait dans une discussion intense. Il demanda « Tout va bien ?»«
Oui, répondit Valeria. Nous parlions perception. »
« Je vous ai dérangé, excusez-moi. » Je vous laisse. Il est bientôt 18h, je dois aller appeler Dumferson.